sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Et bonsoir à tous, bienvenue pour votre émission de Génération Sport. Alors aujourd'hui on ne sera que deux pour l'émission, du coup je suis avec Robin ce soir, comment tu vas ?
Salut Paul, salut à tous, bah, écoute ça va très bien. Ça va très bien.
Vas-y.
Ça va très bien.
Ah, c'est bon, ok.
Bah alors, petit problème technique, excusez-nous, mais oui, je disais ça va très bien. Écoute, ce soir, on est que deux, mais bon, on va passer un bon moment. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actualités en cette semaine, donc voilà.
Et oui, comme tu l'as dit, on a beaucoup de choses à vous dire ce soir, entre les actus locales, comme d'habitude. On a un peu de football, encore une fois, avec la CAN, la Coupe de France, avec le tirage qui se passe en direct. Du coup, on vous donnera un peu les résultats. Ensuite, on a un peu de biathlon, bien sûr, avec les JO qui arrivent bientôt. On a aussi du tennis avec l'Open d'Australie qui arrive la semaine prochaine. Du coup, on va vous donner quelques prédictions de notre côté et encore quelques d'autres actualités qu'on vous donnera au fur et à mesure. Du coup, on va commencer par les actus locales. Le Scandball ne disputait pas de match ce week-end, mais on les retrouvera lors du week-end du 13 février, lors d'un déplacement à Ivry. Même constat pour le Sco Rugby, également au repos, qui sera de retour ce week-end face à l'association sportive Chablisienne en déplacement. De son côté, l'UFAB recevait Chartres à Jambouin. Les Angevines se sont malheureusement inclinés sur le score de 70 à 61. Quelques jours plus tard, l'EAB se déplaçait à Fougères où ils ont retrouvé la défaite, cette fois-ci 62-52. Pour finir ce petit tour de basket, Cholet Basket s'est imposé d'une courte tête sur le parquet de Gravelines Dunkerque au terme d'un match très disputé, remporté 98-97. Hockey sur glace, les Ducs ont parfaitement entamé la nouvelle année avec 4 victoires en autant de rencontres depuis le 2 janvier face à Gap, Bordeaux, Chamonix et Anglais, une série positive qui leur permet de s'installer en tête du classement. Enfin, pour conclure ce tour de notre département, le SCO recevait Toulouse à Raymond Coppa pour le compte de les 16e de finale de la Coupe de France. Dans une rencontre sans grande intensité, les deux équipes se sont neutralisées 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Les pénaux ont alors joué un tour et le SCO a perdu 6-5 face aux visiteurs. Donc Robin, je viens vers toi pour te demander qu'as-tu pensé de ce match et quels enseignements penses-tu qu'on peut en tenir ?
Bah, terrible fin. On était ensemble au stade, Paul, et puis on l'a vécu en direct. Voilà un match assez, on peut le dire, assez ennuyeux. Hein. Pas beaucoup de jeux proposés par le SCO d'Angers, un petit peu plus par les visiteurs, mais c'était pas non plus flagrant. Donc on peut pas dire que le SCO ait mérité autre chose finalement. Bon, on a toujours cette séance de pénalty qui est assez cruelle forcément, mais l'égalisation est déjà assez heureuse à la 91e. Après, voilà, on a vu. Très peu de bonnes choses. Moi, j'ai trouvé un manque d'intensité. On a eu du mal côté scoïste à emballer les choses. Même dans cette première mi-temps, elle a été totalement vide, que ça soit côté toulousain ou côté angevin. Donc non, franchement, assez déçu de ce match. Après, déjà le match, on en a pas parlé la semaine passée parce qu'il y avait pas d'émission, mais déjà après le match pas terrible contre le Havre en termes de contenu, etc. Donc oui, assez déçu, notamment de ce bail qui a été vraiment en dedans, je trouve, sur cette rencontre. Une fin d'épopée, mais assez compliqué. On sait que l'année dernière face à Reims, on avait vécu des bons moments et que cette qualification en demi-finale était passée pas loin. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le plus important, c'est le championnat, c'est le maintien dans un premier temps, et puis après pourquoi pas voir plus haut. Mais voilà, c'est toujours sympa ces petites épopées. Mais après Toulouse a été au-dessus sur cette rencontre. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais voilà.
Bah en fait, comme tu l'as dit, en fait cette première mi-temps, elle était un peu neutre, où en fait le SCO a essayé de relancer par l'arrière pour aller vers l'avant, sauf qu'au final on n'a rien produit du tout, on s'est juste mis en danger et Toulouse a été plus dangereux malgré qu'ils ont eu très peu d'occasions. Mais oui, Toulouse a été supérieur à nous quand même, que ça soit dans l'entame du match, quand l'entame de la seconde période où ils marquent un but, et surtout on a remarqué en tant que supporter que t'as quand même attendu la 86e minute pour que le match s'emballe. C'est quand même problématique, c'est que t'es mené dès la 48e, si je me trompe pas, ou 47e, et derrière t'attends quand même plus de la 80e minute, c'est-à-dire moins de 10 minutes avant la fin du match, pour emballer un match que tu dois emballer 20 minutes avant, sachant que t'es devant ton public, qu'il y a du monde au stade. Il y a quand même plus de 10 000 supporters, du coup c'était bien pour un match de Coupe de France un samedi après-midi. Comme on l'avait dit, que un samedi après-midi souvent ça peut faire qu'il y ait moins de monde qu'un dimanche après-midi, parce que il y a des gens qui travaillent encore, et du coup quand même 10 000 supporters c'était bien. Et du coup de pas avoir resté emballé ce match, je trouve ça tellement dommage d'avoir obtenu, enfin à la fois c'est bien d'avoir obtenu un pénal à la fin, ça nous a permis d'avoir une séance de pénalty qui était quand même attendue, parce qu'on s'était quand même espéré quand t'es mené 1-0 jusqu'à la fin. Un pénalty venu de nulle part où Prosper Peter s'est, si je me trompe pas, du coup fauché par Creswell, et après le pénalty de Sbaï qui a pas fait un bon match comme tu l'as dit, enfin trop.
Ça sauve son match.
Voilà, enfin c'est ça. Ça sauve même pas, j'ai envie de te dire. C'est juste, ça aide à rattraper le score, mais il se sauve pas du tout un match catastrophique, que ça soit de son côté. Même Peters qui obtient la faute, mais il a rien proposé aussi de son côté. Ouais. La défense, j'ai envie de dire que par exemple Pona a fait un très gros match,
côté. Grande satisfaction,
ouais,
du côté.
C'est peut-être j'ai envie de te dire la seule satisfaction, ouais, de ce match, parce que on peut dire que déjà au niveau des gardiens, la cellule de gardiens marche très bien, que du coup les jeunes ça marche très bien, comme on peut le voir depuis quelques temps, et du coup qu'un gardien remplaçant comme ça, il en faut beaucoup, parce que ça nous aide. Zinga fait les matchs de Ligue 1 quand Kofi n'est pas là, et du coup Pona montre qu'il est présent et qu'il est capable de faire de très belles choses en Coupe de France. Donc je suis très content de sa prestation, mais c'est peut-être la seule satisfaction de ce match, et je trouve ça dommage de s'arrêter directement dès les 16e finales, alors qu'il y a encore tellement de choses à faire. Enfin, on a pu voir que le PSG a été éliminé, que du coup c'est une compétition qui peut être ouverte à tous, et c'est dommage de sortir dès maintenant, je trouve. Mais on verra bien, on reviendra l'année prochaine. On sait que la deuxième partie de saison risque d'être plus compliquée, avec le potentiel départ d'Abdelik, comme on l'a vu vers l'OM, et
pourquoi
même de
Chérif.
Oui, voilà, c'est ça, Chérif aussi, tu vois, s'il part, ça va être...
Ça être compliqué.
Ça va être compliqué.
Mais bon, surtout ce que j'ai trouvé discutable, moi, c'est les choix de, du jeu. On en parlait un petit peu. Que ça soit les remplacements et même les tireurs de pénaux. Changer les deux latéraux qui sont, sans compter le gardien de but, peut-être tes deux meilleurs joueurs, peut-être avec Belkebla sur le terrain dans ce match. Les faire sortir, on voit qu'on en a parlé, Zba, il proposait rien du tout, aucun, tout le temps demander les appels, enfin tout le temps demander les ballons dans les pieds, aucun appel en profondeur, alors qu'il y avait de l'espace pourtant dans le dos de la défense toulousaine. Même Prosper Peter qui n'allait même pas au duel, j'ai été vraiment très déçu de sa prestation, il allait même pas au duel, il tentait même pas de se battre, on a l'impression, donc c'était très étrange. Il les laisse sur le terrain, il fait sortir quasiment, comme je l'ai dit, ses deux meilleurs joueurs, donc voilà. Et puis après les tireurs de penalty assez bizarre aussi de faire tirer les jeunes avant les cadres. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'ai trouvé ça assez bizarre de la part de Dujet. Je suis un peu déçu aussi de ses choix dans ce match.
Bah, c'est un choix qui a été, comment dire, oui, on le décrit, on a peut-être tort, on a peut-être raison, je sais pas. Mais oui, ça n'a pas été choix qu'on pu aider. Genre, c'est pas Anin ou Arcus qui ont amené du danger. C'était plutôt des joueurs qui étaient plus hauts, qui devraient amener du danger et qui ne l'amenaient pas. Et que du coup, ça nous a pas permis d'emballer le match. Du coup, comme tu l'as dit, c'est dommage. Et les tireurs de pénalty, oui, comme de mettre, bah, du coup, machine avant des tireurs un peu plus confirmés, comme, bah, les Lefort, Anin, ou même Zbaï. Du coup, tu vois, tu le mets en deuxième, c'est quand même une place importante parce que, sachant que Ponard était le premier penalty, du coup tu dois mettre en confiance en mettant le deuxième et derrière il le loupe, du coup ça fait que la confiance retombe, les deux équipes sont même Toulouse a pris un peu l'ascendant en sachant qu'il a loupé, bah du coup ça tient, mais arrivé à malheureusement Marius Courcoul qui le loupe et voilà
on sait que c'est un peu le coup du sort aussi, mais voilà. Et donc on a commencé à l'évoquer, la Coupe de France, on va directement enchaîner avec ça puisque ce week-end avait donc lieu, comme on l'a dit avec le SCO, les 16e de finale de la Coupe de France, et donc le deuxième tour pour les pensionnaires de Ligue 1. 16 des 18 clubs de notre championnat s'étaient hissés à ce stade de la compétition, et seulement 11 d'entre eux ont réussi à atteindre les 8e de finale, en attendant l'OM ce soir qui joue face à Bayeux à 21h. Samedi, Monaco et Strasbourg se sont imposés tranquillement, face à Orléans 3-1 pour les Monégasques et 6-0 pour les Strasbourgeois face à Avranches. Amiens a réussi à se détacher de Montreuil, pensionnaire de R1, sur le score de 4-2. Troyes s'est imposé 2-0 en Corse face à Bastia. Qualification aussi pour Lorient, face au club de National 3 au Lyon. Et de Laval face à Istres. Tandis que le stade de Reims s'est vu emmener au tir au but, mais s'est finalement qualifié face à Le Puy. Dimanche, Lens s'est largement imposé sur la pelouse de Sochaux 3-0. Nice a éliminé Nantes dans un duel de Ligue 1 au tir au but. Le Mans a également dû passer par les pénaltys pour venir à bout de Nancy et se qualifier en 8e de finale. De son côté, Metz s'est fait corriger à domicile par Montpellier 4-0. Rennes, mené jusqu'à la 70e, 1-0, s'est fait peur et a longtemps dû batailler face à Chantilly, pensionnaire de N2, mais s'est finalement imposé 3-1. À 21h, c'était le gros choc de ce Tour de Coupe de France, un affrontement entre deux grosses écuries de Ligue 1, Lille et Lyon, qui s'est soldé sur une victoire 2-1 des Lyonnais sur les terres lilloises. Enfin, hier soir, c'était la grosse surprise créée par le Paris FC, qui a éliminé le Paris Saint-Germain, 1-0 au Parc des Princes, grâce à un but de Jonathan Ekoné, à l'entame du dernier quart d'heure. Cela faisait 12 ans que le PSG n'avait pas été éliminé à ce stade de la compétition. Un véritable exploit réalisé donc par le Paris FC dans ce derby parisien, qui s'était soldé par une victoire du PSG il y a une dizaine de jours, sur le score de 2-1. On l'a dit donc, dernier match ce soir de ce 16e de finale à 21h, opposant l'Olympique de Marseille et l'équipe de Bayeux évoluant en National 2. Toi qui as un petit peu le cœur marseillais, qu'est-ce que t'attends de ce match ce soir, Paul?
Moi, de mon côté, j'attends quand même un match maîtrisé de la part des Marseillais, car l'OM affronte quand même une équipe qui est 5 divisions en dessous d'elle. Du coup, elle doit se faire de respecter son adversaire et du coup de proposer un match de qualité et de le gagner dans la logique des choses. Mais j'espère que, et on le pense et on le sait, Bayeux va jouer toutes ses cartes, va essayer juste au maximum de proposer un jeu on connaît pas cette équipe, mais du coup j'espère qu'ils vont nous proposer quelque chose. Et bah ça va être un match intéressant à Michel Dornano à Caen. Du coup ça peut être quelque chose de pas mal, en plus pour un club du coup en R1, c'est toujours une fête assez impressionnante d'affronter une équipe de Ligue 1. Du coup j'espère un beau match et une victoire de l'OM. Voilà.
Et ben d'ailleurs je reviens sur ce que j'ai dit N2 alors que Bayeux c'est un pensionnaire de R1. Excusez-moi, c'est le petit poussé de la compétition avec Montreuil, donc qui a perdu contre Amiens, je l'ai dit. Et on a d'ailleurs le tirage au sort qui s'est effectué il y a de cela 15 minutes, le tirage au sort des 8e de finale. Donc le vainqueur de ce soir entre Bayeux et Marseille affronterait le Stade Rennais, donc potentiellement un gros choc de la Ligue 1 entre Marseille et Rennes. On aura ensuite Toulouse qui recevra Amiens, le pensionnaire de Ligue 2, donc qui a éliminé, on l'a dit, l'autre petit poussé à Montreuil. On a un autre gros choc de Ligue 1 entre Strasbourg et Monaco. On aura également à suivre Reims qui affrontera Le Mans, les deux équipes de Ligue 2. Nice qui recevra Montpellier, ainsi que Troyes qui recevra de son côté Lens. On aura également un nouveau choc de Ligue 1, Lorient Paris FC, et enfin Lyon qui recevra le Stade Lavallois. Donc voilà, en cas de qualification, quand même un gros choc pour les Marseillais.
Ouais, bah j'aurais bien aimé l'éviter, ce Stade Rennais qui monte en puissance, mais bon, cela vit. Si Marseille passe, bah ça sera un beau match, on l'espère, et ça sera pas le seul, parce qu'un Strasbourg-Monaco, dans la forme des deux équipes, gagner un match comme ça, même si bon, c'est dans quelques semaines les huitièmes de finale, gagner un match comme ça, ce sera intéressant pour reprendre la confiance. Il y a pas que ça, enfin il y a quand même des Stade de Reims-Le Mans, c'est bien pour deux équipes qui jouent. Qui sont en Ligue 2 et qui jouent la montée, si je me trompe pas. Donc ça va être deux matchs, enfin c'est un match aussi très intéressant, et aussi Lyon contre le Stade Lavallois, ça pourrait être pas mal à voir.
Après, ce que je trouve un petit peu on perd, bon c'est pas de leur faute, mais on perd un petit peu cette magie de la coupe qu'on a d'habitude, avec toujours on sait peut-être pas, hein, ce soir Bayeux peut peut-être éliminer l'Olympique de Marseille et faire un gros parcours, mais on a toujours ce petit pousset qui fait un parcours et qu'on a envie de suivre jusqu'au bout, et là on l'a pas, donc c'est un petit peu triste, mais voilà, en tout cas cette Coupe de France va toujours être intéressante à suivre, surtout qu'il y a plus le Paris Saint-Germain qui a été grandissime favori, donc ça va ouvrir la porte notamment à des clubs comme Marseille pour potentiellement glaner un trophée. On peut en parler notamment de ce trophée qui s'est vu passer, rasé sous le pied, couper l'herbe sous le pied de l'Olympique de Marseille, si je puis dire, dans les dernières minutes face au PSG. Comment toi t'as vécu ce match assez compliqué quand même, je pense, du côté marseillais?
En fait, tu passes par toutes les émotions dans un match comme ça. C'est que au début, tu as quelques actions, tu as quand même la grosse parade de Chevalier sur sa ligne face à Balerdi. Derrière, tu as la grosse boulette de Medina qui remet dans l'axe du coup Vitinha, qui la passe à Dembélé et qui marque. Et du coup, après, tu essayes de revenir, tu reviens sur un penalty qui est litigé, on peut le dire, mais qui quand même est sifflable.
Qui est sifflable.
Et qui a été sifflé, du coup, qui a permis à Mason Greenwood de transformer son penalty. Et du coup, après, derrière, tu te dis, tu vas aller au péno, pourquoi pas. Et au final, il y a le 2-1 sur un CSC de Pacho. Et à ce moment-là, 87e minute, là, tu dois remballer. Derrière, tu mets barbelé et hop, c'est fini, quoi. Sauf que malheureusement, Marseille n'a pas les codes de toutes les équipes et s'est dit que jouer haut, c'est pas mal. Et du coup, ça a permis à Ramos de marquer. Mais bon, c'est un match, comme les autres, j'ai envie de te dire, où Marseille, encore une fois, fait du Marseille. Tout donné, mais derrière, à la fin, ça fait un peu n'importe quoi et ça permet à l'équipe adverse de marquer dans les dernières minutes. C'est dommage, et derrière, les pénaux, j'ai même pas envie de te dire quoi que ce soit, ils ont été tellement mal tirés que c'est pas possible. Très mal tirés. Et quand tu vois les Parisiens qui prennent leur temps, on voit l'expérience, on voit des équipes qui ont l'habitude de gagner des séances de pénaux, ou au moins de les jouer, et qui mettent l'intensité qu'il faut pour une séance de pénalty, et une équipe qui arrive avec ses moyens et qui fait même pas d'efforts. Enfin, je sais pas trop, mais les pénaltys de O'Reilly et Traoré
sont pas bien tirés.
C'est pas bien tiré et pas regardé surtout.
Non, c'est sûr. Après, il y avait la place quand même pour Marseille. Là, c'est sûr que c'était pas non plus une énorme prestation du PSG. C'était pas le PSG des grands soirs. C'était pas non plus l'OM des grands soirs, mais c'était une prestation plutôt aboutie. Et voilà, il y avait des occasions de chaos, notamment l'occasion juste avant le but de Ramos, c'est Aubameyang si je me trompe pas.
Qui va tout seul et Pacho le rattrape.
Ouais. Il y a des occasions pour tuer le match, donc c'est dommage pour Marseille, mais voilà, on l'a dit, il y a cette Coupe de France qui potentiellement peut être un trophée pour Marseille qui attend ça depuis de nombreuses années maintenant, depuis 14 ans si je dis pas de bêtises.
Un trophée, oui, un trophée déjà. Ouais. La Coupe de France, ça fait au moins plus de 34 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 1989 la dernière.
Ouais, donc pour un club comme Marseille, quand même, ça fait un petit bout de temps.
C'est un problème.
Donc voilà, il y a la place maintenant à eux de faire le job, et puis voilà.
Tout à fait. Du coup, maintenant, on va passer sur une petite pause musicale sur un son de Love You de Nono La Grinta qui marche très bien en ce moment même.
105 FM.
Walking in the midnight sun.
Bon, petit problème technique, excusez-nous pour la musique, on fera mieux la prochaine fois. Du coup, on enchaîne sur une compétition qui se déroule en ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations. Avec vendredi, ça marquait le coup d'envoi des quarts de finale de cette compétition. Le Maroc, pays organisateur de la compétition, affrontait le Cameroun avec pour objectif une place en demi-finale. Favoris et soutenus par leur public, les Marocains n'ont pas tremblé et se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Brahim Diaz et Attendez, j'ai un problème avec le buteur.
Non, j'ai plus de nom plus.
Ouais, j'ai mal noté.
J'essaie de réfléchir là.
Attends,
mais...
c'était Sabiri. Deux heures plus tôt se disputait le premier quart de finale entre le Mali et le Sénégal. Ce sont les Sénégalais qui ont ouvert le score à la 27e minute par l'intermédiaire de l'ancien Marseillais Illiman Ndiaye. Réduit une nouvelle fois à 10 après l'expulsion d'Ibi Souma, les Maliens ne sont pas parvenus à revenir au score et ont laissé le Sénégal filer en demi. Le lendemain, l'Algérie faisait face au Nigeria. Après une première mi-temps disputée et équilibrée, les Super Eagles ont accéléré en seconde période pour s'imposer 2-0 grâce à des réalisations de Victor Osimhen et d'Akor Adams. Enfin, pour conclure ces quarts de finale, l'Égypte affrontait la Côte d'Ivoire. Dès la cinquième minute de jeu, une erreur de Franck Kessié permettait à Omar Marmouche d'ouvrir le score pour les Pharaons, qui doublaient la mise un peu plus tard par l'intermédiaire de Rabia. Juste avant la pause, l'Ivoirien réduisait l'écart sur un but contre son camp. Mais l'espoir ivoirien était rapidement douché par Mohamed Salah, auteur du but du break. Malgré la réduction du score par Guéladoué à la 74e, l'Égypte conservait son avantage et validait son billet pour les demi-finales. Les matchs se joueront demain soir entre le Sénégal et l'Égypte à 18h et le Nigeria et le Maroc à 21h. Alors, qu'as-tu pensé de ces matchs? Et même, j'ai envie de te dire, de la compétition même, parce qu'on n'a pas pu trop en parler depuis le début sur l'émission. Du coup, je te demande ton avis.
Bah écoute, moi je suis un gros suiveur de cette CAN. Honnêtement, je suis plutôt fan de cette compétition, un petit peu plus si on peut comparer en termes de compétition, un petit peu plus fan que de la Copa América par exemple. Donc oui, j'aime beaucoup l'ambiance qui est mise, la ferveur autour, etc. C'est quelque chose de très particulier. En termes de football, c'est peut-être pas le football de l'Euro que nous on connaît, peut-être un football plus faible, mais non, il y a toujours cette ferveur, ce truc qui me donne envie de regarder tout simplement. Donc voilà, on sait que après il y a toujours des nations qui sont vraiment très très faibles, donc c'est un peu le problème de cette compétition. Et donc il y a vraiment des écarts si on regarde, par exemple, même si l'écart a pas été lourd non plus, mais par exemple le 8e de finale, le Soudan qui était une des plus petites sélections de cette CAN face au Sénégal qui était un des favoris justement. En 8e de finale, on voit que l'écart est vraiment abyssal, mais non, c'est une CAN plaisante. Et puis là, on a vraiment depuis les quarts de finale les gros rendez-vous. Moi, je me suis vraiment régalé devant le Algérie-Burkina Faso, qui s'est terminé par un but à la 118e, au bout du suspense, au bout de la prolongation, juste avant les pénalties face au Burkina.
C'était contre le Congo.
Contre le Congo. J'ai dit une bêtise.
Oui, t'as dit le Burkina Faso.
J'ai dit le Burkina Faso.
Ouais, alors que c'était en poule, ça.
Ah, c'était en poule. Bah, j'ai totalement mélangé. Non, mais oui, face au Congo, du coup, t'as bien fait de me reprendre. Non, franchement, j'ai adoré ce match. Et voilà, il y a vraiment du beau football qui est produit. J'ai été, en termes de déception, franchement, le Maroc, au début de la compétition, ils m'ont bien emballé. Même le fait que ça soit chez eux, il y a cette ferveur de on n'a pas gagné la CAN depuis très longtemps, depuis de nombreuses dizaines d'années. Voilà, et puis ils ont une belle équipe sur le papier, etc. Et au final, j'ai trouvé que peu à peu, au fur et à mesure des matchs, c'était pas si flamboyant que ça, alors qu'on les comptait vraiment comme les favoris. Mais j'ai été très séduit par la Côte d'Ivoire, qui s'est fait éliminer, comme tu l'as dit, face à l'Égypte, qui, je trouve, au contraire, produit pas un football de grande qualité. Franchement, j'ai pas du tout été emballé par ces Égyptiens, pour être honnête avec vous. J'aurais largement préféré, en termes de football, de voir un Sénégal-Côte d'Ivoire, mais c'est comme ça, c'est le foot, l'Égypte a fait le travail. Et comme on le sait, l'Égypte produit pas tout le temps du beau football, mais va souvent très loin dans les compétitions, notamment à la CAN. Donc voilà, et puis voilà, l'équipe qui me plaît le plus, c'est surtout le Sénégal, mais encore plus le Nigeria. Voilà, le Nigeria qui a surtout une grosse attaque, Victor Osimhen, Akor Adams, vraiment des gros atouts à faire valoir. Donc non, franchement, je suis très heureux de cette CAN. Ça me passionne. Après avoir ce match, moi je sens quand même on va pas dire l'exploit parce que c'est deux grosses sélections, mais le Nigeria faire un truc demain soir face au Maroc, les éliminer, mettre une petite clim aux Marocains. Je dis pas ça en termes de favoritisme ou quoi, mais tout simplement non, franchement, je sens par le jeu créé que le Nigeria peut faire quelque chose. Et après, dans l'autre demi-finale, je vois le Sénégal largement au-dessus. Le Sénégal en termes de football produit depuis le début de la compétition. L'Égypte, ce qu'ils m'ont montré, même si voilà, c'est passé face à la Côte d'Ivoire, j'ai pas du tout été emballé. Un petit peu plus sur ce match-là, mais sur le reste, je parle sur l'ensemble de la compétition, j'ai pas été emballé. Donc voilà, moi je vois bien une finale un petit peu plus en faveur ou pour du moins le Sénégal et le Nigeria. Donc voilà, on verra. En tout cas, le Sénégal Maroc, ça pourrait être très très beau aussi, parce qu'on sait que qu'il y a toujours ces petites rivalités. Mais voilà, j'avais été très emballé aussi. Je l'ai dit, on a parlé par l'Algérie, mais le Nigeria c'était au-dessus. Il y a pas eu de débat. Je sais pas trop si toi tu es très assidu en termes de visionnage de cette CAN, mais c'est ce qui te plaît. Mais franchement, moi je suis je vais pas dire agréablement surpris parce qu'on le savait, mais très très content de cette CAN. Ouais.
Moi je la suis un peu de loin cette CAN, car je regarde pas les matchs, mais je suis les matchs, ce qui se passe. Et j'ai regardé juste le match du Nigeria contre c'était contre qui déjà? En poule. Attends, la Tunisie. Donc j'ai trouvé assez intéressant en termes de du coup d'attaque, comme tu l'as dit, avec Akor Adams, Osimhen, mais il y a aussi Lookman.
Il y en a plein. Ouais.
Ouais, j'allais dire Mofi, mais je sais pas s'il est, je crois pas qu'il soit sélectionné parce que avec ses problèmes.
Ouais,
avec
Nice. Non, ouais.
Mais tu vois quand même, c'est une attaque assez forte. T'as quand même les deux ballons d'or africains de 2022 et 2023. Non, 2023 et 2024. Pardon.
2023-2024.
Voilà, c'est plutôt ça. Du coup, quand même, c'est une attaque assez intéressante et assez costaud, je trouve. Et du coup, cette CAN, comme tu l'as dit, enfin, en fait, il y a pas trop de surprises, et à la fois c'est à la fois bien et mauvais, j'ai envie de te dire. Car c'est bien, il y a toutes les grosses équipes qui sont là, qui sont présentes et qui montrent que du coup, elles ont progressé et qu'elles peuvent continuer dans la compétition malgré que tu peux en affronter d'autres et que tout le monde a répondu présent. Mais en même temps, du coup, cette petite magie quand même de cette compétition là où c'est comme l'Euro, il y a moins de tu vois, de ou même la Copa América, il y a moins de surprises, mais c'est une compétition où il y a souvent des surprises. Il y a eu quand même le Congo qui allait jusqu'en demi-finale en 2023,
l'Afrique du Sud
aussi, voilà. Et du coup, ça met plus de surprises. Et là, enfin, comme on voit le dernier carré, quand même, ces quatre équipes qui sont souvent habituées à ce dernier carré, ou même tu vois au moins à faire parler d'elles. Même pareil, le Mali, le Cameroun, c'est des équipes qui ont gagné la CAN il n'y a pas très très longtemps non plus, tu vois. Donc Non, c'est une CAN qui est intéressante parce qu'il y a quand même de très bons joueurs. Je trouve que non, enfin, j'ai envie de te dire, c'est peut-être même le meilleur carré final qu'on aurait pu avoir. Enfin, à part peut-être, j'aurais peut-être mis plutôt, comme tu l'as dit, la Côte d'Ivoire battre l'Égypte avant le match, mais du coup, ils ont fait un meilleur match que les autres vu que tu l'as suivi et que tu le dis. Et je pense que tu as raison, parce que si l'Égypte s'est hissée jusque là, c'est pas pour rien, et qui a réussi à battre la Côte d'Ivoire, qui est une très bonne nation, qui est tenante du titre, du coup, de cette CAN. Du coup voilà, et du coup comme toi, je suis un peu le Sénégal et le Nigeria en finale parce que c'est deux équipes qui sont assez impressionnantes et que c'est assez impressionnant, je trouve, que cette équipe du Nigeria ne soit pas à la Coupe du Monde vu le jeu proposé.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire, parce que je trouve que vraiment c'est bien pour le football africain, dans le sens où là on voit qu'il y a de plus en plus de sélections qui commencent à avoir un bon niveau. Donc voilà, on sait que ça a pas toujours été facile pour le football africain, notamment à l'échelle mondiale, notamment lors des Coupes du Monde, d'avoir une certaine visibilité. Ça a déjà été mieux, notamment, tout le monde le sait évidemment, avec cette demi-finale du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Donc pourquoi pas continuer. Mais c'est vrai que cette CAN là, elle est vraiment là, c'est vraiment les plus hauts qui vont vraiment potentiellement au bout. On sait que, comme tu l'as dit, les dernières CAN, il y a eu des petites surprises. Voilà, l'Afrique du Sud avec un super gardien qui a fini troisième de la dernière CAN. On avait aussi l'Angola qui s'était hissé en quart de finale. Donc on avait quelques petites surprises, des choses dont on s'attendait pas. Et puis même la Côte d'Ivoire, en début de la compétition, on les voyait pas du tout vu le football proposé. Après ces tôt le 4-0 contre la Guinée équatoriale notamment, on les voyait pas du tout, ne serait-ce que déjà aller en huitième de finale et encore plus gagner. Donc non, là c'est vraiment du football de qualité qu'on va voir, je pense, demain soir. On va pouvoir bien se régaler. Vous aussi, ceux qui vont regarder, ceux qui vont se poser dans leur canapé, devant leur télé. Mais non, en tout cas, ouais, c'est sûr que moi j'ai l'espoir pour le football africain. Là, en voyant le niveau de certaines nations, Voilà, et puis après tu l'as dit, l'Égypte c'est peut-être du football un petit peu moins folklorique, un petit peu moins du football en ballon et le football qu'on a envie de voir, mais c'est du football efficace qui gagne souvent, qui va souvent loin. Voilà, par toujours Mohamed Salah, même si on sait que c'est un peu plus difficile ces dernières saisons, mais qui reste toujours le patron et qui a 3 buts, je crois, dans cette CAN, si je dis pas de bêtises.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Donc non, ça reste, voilà, ils ont quand même une belle attaque. Omar Marmouche, qui est quand même un grand attaquant, même Trezeguet qui reste un très bon attaquant. Donc voilà, on va voir ce que ça nous donne. En tout cas, moi, j'ai très hâte d'être à demain soir pour suivre ces rencontres. Et puis voilà.
Ouais, tout à fait d'accord. Et puis même, genre, je suis très content de voir un Sénégal-Égypte en demi-finale. Ouais. Enfin, c'est
les deux équipes.
Ouais, des retrouvailles qui sont vues beaucoup de fois quand même. Que ce soit pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 ou même, on n'oubliera pas cette finale de la CAN 2021 où le Sénégal avait
le Mané, ça là. Ouais, surtout le ça. Le fait qu'il se retrouve, ça fait plaisir, voilà. Moi, je trouve.
Il y a ça, ça marque bien ce petit duel.
Ça, c'est
donc,
sûr.
On va changer un peu d'ambiance. On va aller parler un peu de Top 14, car ça fait un petit moment qu'on en a pas parlé. Et là, la phase retour commence. Et du coup, ça a commencé lors du premier week-end de ce mois de janvier. Tout d'abord, Pau et Toulouse, respectivement premier et deuxième au classement, se sont inclinés. Les champions en titre toulousains ont chuté face à l'avant-dernier du championnat Perpignan sur le score de 30-27. De son côté, le dauphin palois a été défait à Gerland par Lyon 22-17. Le Stade français, troisième au classement, s'est imposé à domicile contre Castres 33-15, tandis que Clermont est allé s'imposer chez le dernier du classement Montauban 34-19. Mais cette journée a surtout été marquée par des lourdes corrections infligées à certaines équipes du top 10, outre la défaite du Racing 92 balayé 62-20 par Bordeaux. Bayonne s'est lourdement incliné à Montpellier 62-22 et surtout Toulon, pourtant cinquième au classement, a subi une véritable tempête au stade Marcel Delflandre avec une défaite historique 66-0 face à La Rochelle. Ces lourds revers ne sont pas des cas isolés depuis le début de la saison. Le championnat est à la fois extrêmement serré entre le 3e et le 11e et paradoxalement marqué par des écarts de score souvent très importants, y compris entre des équipes pourtant proches au classement. Donc, non, tu sais pas trop le...
Moi, je t'avoue, je suis pas un grand adepte du rugby. Voilà, c'est toujours plaisant quand, notamment là, on va avoir dans 3 semaines le début du tournoi Destination. Que moi, je suis un grand suiveur. Vraiment, j'apprécie beaucoup regarder tout ce qui est équipe de France. Mais je t'avoue que, en termes de club, je suis pas un club en particulier. Voilà, le plus proche de chez moi, c'est La Rochelle. Et forcément, quand La Rochelle joue en Coupe d'Europe et que je vois ça à la télé, je regarde. Mais non, je suis pas un grand adepte de rugby. Mais en tout cas, je sais que nos équipes françaises, en tout cas, je l'espère, vont encore performer en Coupe d'Europe parce que on sait que c'est le gros point fort du rugby français. Donc voilà.
Bah, pour l'instant, ça commence bien pour Bordeaux qui continue sur sa belle lancée. Ils ont gagné quand même le championnat d'Europe l'année dernière. Et Toulouse a perdu ce week-end.
Contre les Saracens?
Ouais, si je me trompe pas, c'était contre les Saracens. Je sais plus contre qui c'était. Mais je crois que c'était contre eux et ils ont perdu. Du coup, c'était à l'extérieur. Du coup, c'était un match compliqué pour les Toulousains, mais je pense qu'ils vont se rattraper et encore une fois décrocher leur qualification. Du coup, on passe maintenant avec un peu de biathlon à quelques jours des JO à Milan Cortina.
Exactement, puisque ce week-end on a assisté à la première étape de biathlon de l'année 2026, et c'est pas réellement un week-end qui a souri à nos bleus, notamment sur le plan individuel, puisqu'au programme on a eu le droit au total à 2 relais, un féminin et un masculin, ainsi qu'à 2 sprints et 2 poursuites. Donc je le rappelle, la poursuite est la conséquence du sprint, les écarts qui sont figés à la fin de la course sprint sont repris pour la poursuite qui se déroule soit le lendemain, soit 2 jours après. Donc pour les relais, nos Français ont plutôt performé, puisque les Françaises ont d'abord samedi décroché la première place haut la main, avec 53 secondes d'avance sur la Norvège et 1 minute 30 sur l'Allemagne qui complète le podium. Du côté des hommes, ça ne s'est pas joué à grand chose, puisque l'écart entre la première nation, la Norvège, vainqueur donc du relais, et l'Allemagne, cinquième, était uniquement de 5 secondes. La France, elle, doit se contenter de la 2e place devant la Suède, qui complète le podium. Du côté des courses individuelles, ça n'a cependant pas été très glorieux. Ça avait pourtant bien commencé avec le sprint féminin, puisque Julia Simon a décroché la 3e place à 23 secondes de la vainqueur Elvira Öberg, la Suédoise, qui s'est également imposée sur la poursuite, alors que Julia Simon finira, elle, cependant 4e de cette course. Du côté des masculins, l'Italien Tommaso Giacomel a réalisé à son tour le doublé sprint poursuite. Prestation compliquée pour nos Français avec une 6e place pour Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet qui finit seulement 11e sur le sprint. Et la poursuite de samedi n'a pas vraiment non plus été une franche réussite pour nos Français puisque Éric Perrault rétrograde à la 8e place. Mais Quentin Fillon-Maillet finit tout de même meilleur Français avec une anecdotique 6e place. Au classement général, Éric Perrault reste à la 3e place du podium et Lou Jean Monod, malgré son assez mauvais week-end, on peut le dire, reste leader quant à elle du classement général féminin. On espère une meilleure semaine pour nos Français lors de la prochaine étape qui débute dès demain après-midi à 14h avec le relais féminin. Donc voilà quand même des espoirs, même si c'était pas une belle semaine, des espoirs à nourrir pour des potentielles médailles pour les JO d'hiver qui avancent à grands pas, tout comme le tournoi destination. Donc ça va être intéressant à suivre.
Et tout comme aussi l'Open d'Australie.
L'Open d'Australie dont on va parler, exactement.
Du coup, on va pouvoir parler un peu de ce petit tournoi qui arrive quand même, parce que ça arrive bientôt.
Exactement, parce que là, du coup, on a les tournois de préparation qui se font actuellement, notamment à Adélaïde. On a eu ceux également à Brisbane, avec notamment la victoire de Daniil Medvedev. Il me semble que c'est son 23e titre dans la 23e ville différente, donc ce qui est un exploit assez exceptionnel. Mais voilà, donc on va vous livrer nos favoris, nos outsiders, plutôt nos flops qu'on voit pour cette compétition, et enfin le français qu'on voit aller le plus loin tout simplement dans ce tournoi, et puis on va l'évoquer, mais ça va être assez compliqué pour nos français, donc voilà, je te laisse commencer par ton favori, Paul.
Mon favori, c'est pas une surprise, un petit peu, parce que tout le monde met Sinner et moi j'ai envie de mettre encore Carlos Alcaraz, bien sûr. J'ai envie de le mettre parce que déjà, à l'US Open, il y a quelques mois, il nous avait montré qu'il était capable de battre Sinner en indoor. Du coup, j'ai envie de te dire que là, j'ai envie d'y croire à nouveau, que vu sa fin de saison un peu plus compliquée, peut-être que notre ami Carlos s'est remis les bouchées doubles pour emporter enfin cet Open d'Australie, parce que c'est le seul grand chelem qui lui manque, si je me trompe pas. Donc non, je pense que Carlos va nous sortir une grosse campagne, et je l'espère surtout pour montrer que sa place de numéro 1 n'est pas n'importe quoi.
Mais écoute, moi de mon côté, je suis plus un fan d'Alcaraz comme toi, mais je suis parti sur Sinner parce que je trouve que Sinner, il a, même s'il y a cette victoire d'Alcaraz, je trouve qu'il dégage, comme on en a parlé il y a quelques semaines, il dégage vraiment cette force robotique que je sens de plus en plus grandir. Vraiment que je le trouve assez exceptionnel à ce niveau-là. Et je sens vraiment que en indoor, même s'il y a cette défaite-là, il commence vraiment petit à petit à devenir vraiment un monstre. Que ça soit là, on va le voir vraiment dans un grand tournoi comme celui-là, dans un grand chelem. Donc voilà, on verra ce qu'il en est, mais vraiment moi vraiment il m'impressionne sur dur, et je le vois vraiment dans un grand chelem sur dur, capable de se transcender et de battre Carlitos, qui normalement devrait arriver en finale. On devrait avoir le duel qu'on attend tous, mais voilà. Et pour le flop, t'es parti sur qui, toi, Paul, de ce flop de cette compétition?
Alors, mon flop, il y en a un que j'ai envie de te dire. On en a parlé tout à l'heure, ça peut être Tsitsipas. Ça, c'est un flop, j'ai envie de te dire, que tout le monde voit. Mais un plus gros flop, je pense que Djoko,
ouais,
ne passera pas les quarts de finale.
Ok.
Honnêtement, je pense que Djoko nous montre enfin qu'il commence à être compliqué pour lui. Là, il monte encore plus de limites. Et quand on voit comment ça peut être de plus en plus compliqué pour lui de tenir sur deux semaines en enchaînant sur parfois même 5-7, du coup. Du coup, je pense que Djoko va pas nous proposer du meilleur Djoko pour ce premier grand chelem de l'année.
Ah, c'est vrai que Djoko, il se fait vieillissant, et j'avoue que si ça va dans les matchs à 5-7,
ça peut être plus compliqué.
Ah, ça peut être compliqué. Mais moi, tu l'as évoqué, moi, je suis parti sur Tsitsipas, vraiment, que je trouve très, très décevant depuis quelques années, surtout en grand chelem. Moi, je l'ai mis, j'ai fait une vraie take, je l'ai mis, il passe pas le deuxième tour. Moi, je le vois pas passer le deuxième tour, je suis déçu, je trouve que il peut être exceptionnel, mais en fait, c'est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire qu'il peut être aussi catastrophique. Vraiment, quand ça commence à pas aller bien, qu'il enchaîne les erreurs, il peut tomber dans une mauvaise dynamique et être mauvais. Là, je regardais son match encore ce matin, ce midi, où il vient perdre dans un tennis vraiment pas top qu'il propose. Son tennis était vraiment pas terrible. Il vient perdre 2-7-0 face à Vukic, qui est vraiment un joueur, avec tout le respect que j'ai pour lui, vraiment un joueur largement en dessous normalement de Tsitsipas. Donc même si Vukic était à domicile, mais voilà, dans ce tournoi de préparation à Adélaïde, ouais, franchement il m'a déçu sur ce match-là. Donc je sais pas si c'est juste pour évacuer et se concentrer sur l'Open d'Australie, mais moi je suis vraiment pas convaincu par ce joueur depuis quelques mois et quelques années. Donc voilà, après il y en a d'autres évidemment qu'on peut évoquer potentiellement. Moi tout à l'heure je te parlais de Medvedev. Je sais pas, toi tu vois Medvedev potentiellement faire un bon truc. C'est toujours moi je considère que les joueurs Rune, Rublev, Tsitsipas, Medvedev, c'est vraiment un double tranchant. C'est des mecs qui peuvent faire des tournois de ouf et les gagner. Je sais pas si tout le monde. Bon là, c'est
pas les
compliqué.
Gagner, mais genre faire
c'est
bon
compliqué
tournoi,
maintenant.
Mais
voilà.
Mais comme tu le dis, même j'ai envie de te dire même plutôt Rublev et Rune, je les mets quand même au-dessus par rapport à Medvedev et Tsitsipas, en sachant que Medvedev et Tsitsipas sont plus vieux, ont plus normalement plus d'expérience quand même. Mais en fait, c'est plus compliqué depuis quelques saisons. Tsitsipas, tu le dis, ça fait quelques années. Moi, j'ai envie de te dire même depuis sa défaite en finale de Roland Garros en 2022, j'ai envie de te dire que ça lui a fait beaucoup de mal, et je pense que son mental a changé depuis, et du coup ça devient beaucoup plus compliqué, ce qui est dommage parce que c'était un très bon joueur. Et du coup j'ai l'impression qu'on a perdu le Tsitsipas d'avant cette finale là et oui mais Medvedev en fait c'est double tranchant, c'est que l'année dernière il a été catastrophique toute la saison, je mets des parenthèses, se réveiller en septembre pour gagner quelques tournois et tout, et là il revient bien. Du coup j'ai envie de te dire que j'espère il fera quelque chose de bien, parce que c'est quand même sur le papier quand même un très bon joueur, parce que
qui a été numéro 1 aussi,
qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné des grands chelems. Donc j'allais te dire que c'est l'un des joueurs que j'espère il va nous montrer qu'il a du caractère, qu'il est, et surtout qu'il peut embêter peut-être, je mets encore des parenthèses sur le peut-être, les deux énormes joueurs que sont Alcaraz et Sinner.
Ah, c'est sûr. Et puis sur ton outsider, toi t'es parti sur qui?
Mon outsider, bah du coup à la fois j'ai envie de te dire que c'est la surface qui lui plaît le plus, et à la fois la surface qui fait qu'il est encore plus fort, c'est Ben Shelton. Son service est toujours aussi énorme sur indoor, et je trouve que il progresse de plus en plus. Et j'ai même envie de dire que il a eu un peu de la malchance sur les derniers grands chelems, sur le fait de tomber sur les Sinner et Alcaraz dès les huitièmes ou quart de finale. Du coup je trouve que si pour une fois il a un peu de chance sur la partie tableau ou bien sur le tirage en quart ou en huitième, mais peut-être qu'il fera une demi, ce serait super parce que c'est un très bon tennisman. Si je me trompe pas, c'est lui qui va en finale contre.
Il fait une finale.
L'Open d'Australie l'année dernière, c'est lui qui fait finale contre Sinner.
Il y a moyen.
Je crois, je vais aller juste vérifier, mais normalement c'est lui.
Mais oui, c'est sûr que Ben Shelton, son service.
Et il est énorme, mais.
Est exceptionnel. Bah, même c'est sûr que c'est un bon joueur de tennis, mais qui a quelques, je trouve quand même quelques irrégularités quand on lui demande vraiment d'hausser son niveau de jeu. Pour la norme du tennis professionnel, comme il joue les grands tournois comme ça, c'est bien, mais quand on lui demande vraiment d'hausser son niveau de jeu pour atteindre les sommets, c'est plus compliqué.
Non, c'était Zverev, il allait jusqu'en demi-finale.
Mais
du coup, oui, comme tu le dis, des fois il a du mal à hausser son niveau, mais il a à la fois, il y a des très bons joueurs qui sont jeunes, mais lui il est aussi très jeune encore, il a encore à apprendre, mais je pense que c'est un joueur qui dans 2-3 ans sera encore très bon, je l'espère, et qui continuera à faire un très beau tennis, et je pense que du coup il va nous faire encore un grand tournoi.
Bah moi sur mon outsider, alors je suis parti sur un outsider qui n'en est pas vraiment un ces dernières semaines, mais je suis parti sur Bublik, voilà, qui vient d'intégrer le top 10, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un outsider, mais on l'aurait jamais vu là il y a quelques semaines, quelques mois, et finalement là il vient encore de gagner l'ATP, alors j'ai plus exactement la ville, mais un ATP 250, et face à Musetti en plus qui est lui numéro 5. Donc on le voyait pas forcément battre l'Italien. Donc moi je suis plutôt emballé par Bublik, dont j'étais pas vraiment emballé, justement pour être honnête, il y a de cela quelques années, qui me plaisait pas vraiment, voilà, que je trouvais avait produire un tennis pas terrible, vraiment irrégulier. Et là vraiment depuis quelques mois, et notamment son Roland où je trouve qu'il a été très très bon. Bon, il s'est fait bien évidemment éliminer par Sinner, ce qui est plutôt une logique.
Il s'est fait torpiller, hein. 6-0, enfin, 6-1, 6-3.
Voilà, il avait sorti Fritz, si je me trompe pas, le tour d'avant, de façon très très belle, alors que personne l'attendait. Donc voilà, moi je miserais sur Bublik un quart, voire un dernier carré. Ouais, voilà, s'il est, moi je me dis que s'il est en forme et s'il continue sur une forme qu'il a eue, notamment sur ce dernier tournoi qui était, peut-être t'as retrouvé la...
J'ai trouvé, c'est Hong Kong.
Hong Kong, voilà,
il
c'est
gagne
ça.
7, il gagne 7, en 2-7, 6-0.
Voilà, c'est ça. S'il garde la forme qu'il avait donc à Hong Kong, moi je pense que voilà, on sait jamais, potentiellement, voilà, pas forcément outsider à la victoire finale, mais outsider potentiellement à un dernier carré. Je pense que c'est possible.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il monte en puissance. Et ouais, tu m'as rappelé aussi un joueur qui, pour moi, est très surcoté, c'est Fritz, qui, je pense, mets aussi dans les joueurs qui vont flop ce tournoi, car je pense que ça va être très compliqué pour lui.
Bah, l'Open d'Australie, dernière premier tour.
Voilà, mais
premier tour en 4-7 face à Altmaier, si je dis pas de bêtises, il sort. Très mauvaise prestation. Bon, Altmaier a proposé du beau tennis, c'est parce que je crois que j'ai regardé le match. Mais ouais, proposé du beau tennis, mais perdre premier tour. C'était deuxième numéro 4 face à Altmaier, qui est, si je dis pas de bêtises, pas forcément un joueur de dur. C'est, voilà, c'était déception, mais c'est sûr que lui, il déçoit quand
même. Il
déçoit
beaucoup. Bah, en grand chelem, il déçoit énormément. Ouais, la saison dernière, il a déçu beaucoup. Et en fait, je trouve que en ATP et en Master, il est très bon jusqu'en quart ou demi, où là, en fait, t'as l'impression que dès que le niveau hausse un peu, bah, il a du mal. Sauf qu'en gros, il est très régulier dans ces tournois-là. Mmh. Du coup, ce qui fait qu'il gagne beaucoup de points et que du coup, arrive à se classer dans le top 10. Mais au final, il en gagne pas. Et du coup, c'est pas un joueur qui m'a subjugué et qui me subjugue maintenant.
Ouais, c'est sûr. Et enfin, on va terminer par notre joueur français, notre petit français qu'on voit aller le plus loin. Donc voilà, je préfère prévenir que ça ne sera pas exceptionnel parce que les Français, c'est compliqué. Là, on a Rinderknecht qui a déclaré forfait pour le tournoi de préparation, donc à Adélaïde qui se joue actuellement. On a mon fils qui a perdu ce matin au premier tour. On a Corentin Moutet qui a fait l'impasse, donc on ne sait pas vraiment s'il va arriver en forme. Donc c'est assez compliqué. Toi, tu vois qui aller plus loin?
Bah, tu l'as dit, Moutet, je pense que même s'il a fait l'impasse, c'est peut-être celui qui va peut-être décrocher le deuxième ou troisième tour. C'est peut-être celui même, enfin, j'allais te dire, c'est celui qui a toujours le plus d'expérience dans ces tournois-là, jusqu'au deuxième ou troisième tour, tu vois. Genre, je vois pas un Müller faire quelque chose de grand. Mon fils, à la fois, j'ai envie de te dire que j'espère qu'il va se garder pour un dernier Roland Garros, et à la fois, j'ai envie de te dire que j'ai du mal à croire qu'il tiendra. Et voilà, il y en a d'autres qui peuvent faire des belles choses, mais j'ai du mal à y croire, et je pense que Moutet, même s'il est pas dans la forme du siècle, il peut au moins accrocher un deuxième ou troisième tour.
Ok, ben moi je suis parti sur MP de chez Péricard parce que je trouve que c'est une surface qui lui convient forcément avec son énorme service. Et voilà, là il s'est imposé hier soir lors du premier tour face à Bautista Agut tranquillement en 2-7. Donc moi voilà, je le vois pas forcément exceller non plus, voilà, faire un petit deuxième, troisième tour. Mais voilà, je mets ma plus grosse chance française sur lui et on verra, mais c'est sûr que ça va être un tournoi assez compliqué pour nos Français, ça c'est sûr.
Ouais, bah quand t'as Rinderknecht et Arthur Fils aussi qui sont pas là.
Ouais, sur
ça se devient beaucoup plus.
Surtout les après
ça fait mal de voir Fils qui n'a plus fait de grand chelem depuis Roland Garros l'année dernière, ni proposé de grands tournois, ça fait du mal.
C'est sûr, d'ailleurs, j'ai pas vu
qu'il va revenir.
Ouais, j'ai pas vu pour quand c'était prévu ça.
Je sais pas, peut-être pour la terre battue, mais je sais pas.
À voir, mais en tout cas, oui, c'est sûr que nos deux plus grandes chances françaises, après avoir Rinderknecht, s'il revient, il s'est préservé juste, mais...
J'ai du mal à y croire, voilà. S'il était blessé, vraiment, on verra. On verra bien.
Bon, ça te dit qu'on passe au jeu? On va passer au jeu.
Dernier petit jeu.
On vous a préparé un petit jeu avec Paul, donc chacun, vous pouvez jouer avec nous également. On s'est chacun choisi une équipe et une saison, et va falloir réciter le plus de joueurs possible de l'effectif de la saison en question. Et celui qui a le plus de joueurs gagne, on va dire ça comme ça.
Bah, c'est
un
ça.
Joueur égal à un point.
Voilà.
Et c'est parti.
Il faut juste retenir.
qu'est-ce que tu m'as proposé, toi, comme effectif?
Alors, moi, j'ai proposé une équipe qui se fait éliminer en Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais en 2019-2020 pendant le Final Four, enfin qui n'était pas actuellement mais à ce moment-là, mais qui était juste avant, du coup en 8e de finale.
La Juventus de Turin.
Voilà.
Un club que je suis pas du tout, donc ça va être assez compliqué. Surtout que les années, moi, j'ai beaucoup de mal. Bon, je sais déjà qu'on a forcément Cristiano Ronaldo. Je vais essayer de me faire dans l'ordre au milieu. Alors, faut que j'essaie de me rappeler le maillot parce que le maillot, ça m'aide pas mal, moi. Moi, je sens que je vais être catastrophique, je vais être mauvais à ce jeu. Chiesa était encore là, Fio, je dis là.
Juste après. Genre, il arrive du coup, à cet été-là, il arrive.
Est-ce qu'il n'y avait pas McKenny au milieu de terrain?
McKenny n'était pas là, il est arrivé aussi, je crois, à ce moment-là, au Mercato qui est arrivé.
Alors c'est fou quand même que je n'ai aucun, Chiellini, Bolunchi, défense centrale.
Ouais, toujours là.
Est-ce qu'on n'avait pas, j'allais dire Alexandro, mais il est là.
Il était là, Alexandro.
Cuadrado était déjà parti ou il était là?
Cuadrado était là.
Sur le banc, non, Barzagli était plus là.
Barzagli
était déjà parti depuis longtemps. Je suis très mauvais en termes d'années, hein, je vous préviens. Au milieu de terrain,
alors t'en as un qui est quand même parti au Barça cet été-là pour 60 millions d'euros.
Pjanic?
Ouais.
Pjanic. Ok. Après.
T'as deux Français quand même. Il y en a un qui est champion du monde, l'autre qui a fait beaucoup.
Est-ce qu'on avait Matuidi en, à ce niveau-là? Et puis, en attaque peut-être. Qui c'est?
T'en as un gros que t'as quand même oublié, hein. En attaque. Déjà.
En attaque?
Ouais.
Je suis très mauvais, hein.
Un Argentin.
Attends, c'est là, tu me mets la pression.
Gaucher. Barça 2017.
C'est quoi ce trou de mémoire, là? Attends. Barça 2017.
Qui a éliminé le Barça 2017.
Ah oui, ok, Dybala. Waouh. Oh là là, le fou. Non, oui, après, qui c'est que je pourrais sortir? À la Juve, c'est vraiment pas ma tasse de thé, hein.
Reste une minute. J'ai mis un petit chrono de 4 minutes.
Ouais, vas-y. Non, c'est vraiment pas ma tasse de thé.
T'as un Français, il a fait beaucoup parler de lui, il était à l'OM l'année dernière.
Rabiot. Ouais. Oh, voilà, je suis très très mauvais. Milieu de terrain, est-ce que je pourrais pas te
là, trouver... tu t'attaques peut-être au plus dur. Ouais. Moi, je vais te dire, même les gardiens, il y en a un qui joue au Barça actuellement. Remplaçant.
Ah, Chesney?
Ouais. Il y en a un qui a pris sa retraite, c'est une légende ultime de ce poste.
Et est-ce qu'il était déjà, il était pas au PSG encore à ce moment-là?
Il est revenu à ce moment-là.
Ah, donc c'est Buffon.
Ouais.
Ok. Parce que je pensais qu'il était au PSG, c'est pour ça que je l'avais pas cité. Mais après, sur les ailes en attaque, on n'avait pas encore Douglas Costa. Où il était?
Alors Douglas Costa, attends.
Est-ce qu'il était là, Douglas
Costa? Il était là, attends, je regarde. Il était là.
Il était là, Douglas Costa. Ok, bah ça m'en fait un de plus déjà. Et
t'as deux numéros 9, t'en as un, c'est un Argentin qui a loupé un face-à-face en finale de Coupe du Monde, et un Croate qui a marqué un but en finale de Coupe du Monde.
Un Mandzukic.
Ouais.
Ok.
Et l'Argentin?
Ouais, je l'aurais pas.
C'est ton dernier?
Ouais, moi j'arrête. Okay.
Donc t'en as réussi à en trouver 13.
Ah, ce qui est quand même, je suis plutôt fier de ma performance. Alors, parce que vraiment, la Juventus, je pouvais
t'as
pas.
T'as comme des personnes. Bah, Higuain, du coup.
Ah oui,
l'Argentin qui loupe son face-à-face.
Ah, je pensais qu'il était déjà parti.
Ensuite, t'as quand même Bernadeschi. Ouais, Deschi, pardon. Ouais. On a Khedira.
Ouais, encore.
T'as Ramzy. Bettencourt.
Ouais.
T'as Deschiglio, mais bon, un peu moins connu, mais tu peux peut-être y penser. T'as Rugani. Bon, un peu plus.
Ouais,
Danilo.
Ouais.
Emre Can.
Ok.
De Ligt.
Oh, De Ligt. Ouais,
bon, t'as trouvé les gros. Il manquait quelques petits points.
J'ai du mal. Ouais, je vous avoue, là, la Juventus, c'est pas.
Vas-y, je mets le petit chrono.
Vas-y, bah écoute, moi je vais te proposer une équipe championne d'Europe qui a gagné avec des champions. La même, pas la même saison, la saison d'après, 2020-2021. Je vais te proposer Chelsea.
Ok.
Il va falloir que tu trouves Chelsea. Alors, faut que je te retrouve tout l'effectif. C'est bon, je l'ai sous les yeux.
Edouard Mendy,
ça fait 1. Kepa, ça fait 2.
C'était pas le chauve, comment il s'appelait?
Ouais.
Caballero.
Ouais, ça fait 3. Déjà, t'as trouvé 3 gardiens, c'est déjà énorme.
Caballero. Ensuite, du coup, on a Mason Mount,
ouais.
Kaya Vertz, Werner, Thiago Silva, N'Golo Kanté, Rudiger,
c'est bon.
Rhys James. Alonso.
C'est bon. Alonso, c'est bon. Ça va beaucoup plus vite.
Attends, comment il s'appelle? Qui était à la Roma, au Milan, le numéro 9. Abraham, c'est Abraham.
Ça fait 11.
Ensuite, t'as Kovacic.
Ça fait 12.
C'était qui avec Rudiger et Silva déjà?
Comme t'es allé.
Ah, Aspilicueta.
Aspilicueta, oui, il est
César. Ensuite, je t'ai dit Mount, je t'ai dit Werner. Lukaku n'était pas là.
Non.
Il me manque un pour faire mieux que toi. Il me reste 3 minutes, ça va.
Parce que j'avoue que là, au début, t'es allé vite, donc je sais pas.
Ah, mais j'ai reçu tous les gros que j'avais dans.
Ouais, t'as raison. Je les ai comptés, mais je sais plus exactement les.
T'avais des jeunes, c'est sûr.
Alors, en attaque, donc je sais pas si tu l'as dit. Le numéro 10, est-ce que tu l'as dit? Américain.
Pulisic. Ok, ouais.
Ok, après, on est au milieu.
Milieu, j'ai mis que Kovacic et Kanté.
Kanté.
Il m'en manque un gros.
T'as Mount aussi, t'as dit.
Ouais.
Il y a un Marocain, ah, c'est facile.
Ah, Ziyech.
Hakim. T'as un qui est formé au club, qui jouait pas forcément, qui jouait pas à ce moment-là, mais qui était dans l'effectif.
Choukoumé, non.
Et qui est devenu capitaine après, qui est parti.
Ah, Gallagher.
Gallagher.
Voilà, Gallagher. Est-ce que il y avait Aké?
Est-ce qu'il y avait Aké? Non.
Non. Ok.
Si je dis pas de bêtises, je vérifie. Non, il était pas là.
Ok.
T'as un latéral gauche qui joue actuellement dans un club français.
Emerson.
Oui, mais c'était pas lui au club français.
Mais Emerson aussi. Oui. Un latéral gauche qui joue dans une équipe française.
Ouais, qui jouait dans une équipe française.
Attends.
Équipe française européenne.
Européenne. Ligue Europa.
Conférence.
Ah, Strasbourg. Ah, Chilwell.
Chilwell, exactement. Chilwell. Après, au milieu, tu peux connaître aussi un gars qui est parti au Milan après. Un milieu assez grand.